Combien sont morts par la faute d'Enigma?
Non, aucune idée.
3. Depuis le début de cette conversation.
En quoi consistera ce travail exactement?
Décoder le plus indéchiffrable des codes nazis.
Oh!
Pour résoudre une énigme aussi géniale que celle-ci, il faut vraiment un génie.
Pourquoi construisez-vous une machine?
Cette machine nous permettra de déchiffrer tous les messages et de remporter la victoire.
Vous pourriez nous venir en aide, mais vous refusez. Vous ne comprendrez jamais l'importance de ce que je suis en train de créer ici.
Je ne suis que mathématicien. Vous avez plus de secrets que le meilleur des espions.
Eh bien, on vient d'entendre un extrait du film Le jeu de l'imitation ou Imitation Game en anglais, un film très populaire en ce moment au cinéma. Les mathématiques et les secrets, c'est le thème du café scientifique organisé jeudi par le Consulat de France de Vancouver. Et ça sera présenté, ça, à l'Auditorium de l'Alliance française. C'est une occasion de s'intéresser au monde fascinant des mathématiques qui peut être un petit peu intimidant parfois, mais il y a des secrets que ces mathématiques renferment et peut-être qu'on peut justement en apprendre lors de ces cafés scientifiques. Nicolas Bilré est professeur de l'Université de Clermont-Ferrand, chercheur au Centre français de recherche scientifique et chercheur invité au Pacific Institute for the Mathematical Science. J'ai de la misère à en parler, imaginez les comprendre, de Vancouver. Alors, il nous expliquera la science des communications secrètes, un domaine bien d'actualité de nos jours. Et il est ici en studio pour nous en parler. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour, Nicolas. Vous n'êtes pas juste un mathématicien, vous n'êtes pas que ça. C'est quand même fascinant quand on voit comment c'est complexe et que c'est pas toujours évident non plus de transmettre cette science-là. Justement, vous allez intervenir au café scientifique du consulat jeudi. Et de quel domaine mathématique allez-vous parler précisément?
Alors, je vais parler de ce qu'on appelle la cryptographie. La cryptographie, c'est la science des communications secrètes, comment communiquer secrètement. Oui. Donc, c'est évidemment quelque chose qui intéresse tout le monde. Les militaires, on en parle dans le film Imitation Game,
oui.
mais n'importe qui, tout le monde a envie de pouvoir communiquer secrètement. Mm-hmm. Donc, je vais parler d'un moment en fait, très précis de cette science, parce que c'est une science qui date de... On pourrait presque la dater avec les débuts de l'écriture. Et je vais parler de ce qui s'est passé à la fin des années 70 et qui est une sorte de réponse un peu à ce que Alan Turing avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait craqué la machine Enigma. C'est la réponse que les mathématiciens ont apportée au problème qu'ils posaient. Parce que finalement, suite à ces découvertes, il était devenu presque impensable de pouvoir communiquer secrètement tant les ordinateurs avait rendu difficile la possibilité de créer une machine plus compliquée qu'Enigma, mm-hmm. qui ne puisse jamais être cassée, qui ne puisse jamais être décryptée.
Oui. Donc, mais parlez-nous de lui, justement, parce que c'est ça qui a inspiré le film en question, le fameux film qu'on a entendu, dont on a entendu.
Tout à fait. Le Imitation Game, c'est un film sur Alan Turing, sur ce qu'il a fait principalement donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'aider les Alliés à casser la machine Enigma, qui était la machine créée par les Allemands pour communiquer secrètement et qui pensait être justement indestructible, mm-hmm. incassable. Donc, et pour cela, il a en fait bien plus ou moins créé les ordinateurs, c'est-à-dire les premiers modèles des ordinateurs. Et il a aussi contribué à formaliser ce qu'on appelle aujourd'hui computer sciences, donc tout ce qui est la machine universelle, l'ordinateur universel.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film?
Ben c'est un très bon film que je recommande.
Oui.
Qui, alors bien sûr, est dur par certains aspects parce que Turing en lui-même a une vie difficile de fait de ses choix personnels, mais qui est intéressant aussi par l'histoire qu'elle raconte, qui est une histoire qui est finalement restée secrète longtemps du fait de l'importance que ça avait à l'époque, mm-hmm. puisque c'était une mission top secrète de casser la machine Enigma.
Oui.
Et c'est intéressant. Et puis, ça donne matière aussi à voir ce qu'est vraiment cette science et comment elle a pu évoluer dramatiquement dans ces moments-là.
Mais justement, quand on parle de cryptographie asymétrique, ça représente un tournant majeur dans le développement des moyens d'échange actuels, comme Internet et les courriels aussi.
Tout à fait, oui.
Alors, ça n'a pas fini d'évoluer?
Alors, disons, la découverte de Turing avait marqué une sorte de point d'arrêt de la cryptographie, parce que, encore une fois, il avait réussi à casser ce qui, à l'époque, on pensait être incassable. Donc, après-guerre, quand on a appris que les Alliés avaient réussi à craquer la machine Enigma, c'était à la fois une découverte extraordinaire, parce que pas tout ce qu'elle a engendré, les ordinateurs notamment, mais aussi une grande déception, parce que d'un seul coup, on se disait, mais comment on va faire pour communiquer secrètement? Comment est-ce que c'est possible de faire mieux que ça? Et justement, il a fallu attendre la fin des années 70 pour que deux mathématiciens, qui s'appellent Diffie et Hellman, apportent une solution, et une solution particulièrement élégante, puisqu'elle utilisait des mathématiques du 17e, du 18e siècle. Et leur idée de base, alors, elle était reprise par, en fait, trois personnes en 78, mais leur idée de base, c'était que, de façon concrète, c'était que, pour communiquer secrètement, un expéditeur et un destinataire, finalement, n'ont pas besoin de partager la même information. Autrement dit, avant, jusqu'à l'époque même d'Enigma, qui fonctionnait sur ce principe, si vous vouliez communiquer secrètement, eh bien, il fallait vous mettre d'accord, expéditeur et destinataire, sur une clé secrète.
Oui.
Par exemple, tout bêtement, je ne sais pas, ça aurait pu être... On écrit un message, au lieu d'écrire les A, on les remplace par des B, les B, on les remplace par des C, etc.
Codes,
il y avait des codes.
Oui.
Et leur idée de base, c'est de casser cette symétrie, d'où le nom de cryptographie asymétrique, et de dire, bon, ben, maintenant, pour communiquer secrètement, un expéditeur, un destinataire ne vont pas partager la même information. C'est-à-dire que, pour le dire de façon un peu grossière, un peu imagée, si vous voulez, un expéditeur, il a juste besoin de savoir écrire, et un destinataire, il a juste besoin de savoir lire. Si vous voulez, il n'y a pas besoin réellement que les deux personnes qui veulent communiquer secrètement possèdent exactement la même information. Et c'est cette idée qui est basée sur un concept mathématique qu'ils ont formalisé à l'époque, qui s'appelle le concept de fonction à sens unique, avec brèche, parce qu'il faut pouvoir quand même décrypter les messages, qui est à la base de cette transformation qui a eu lieu à la fin, donc dans les années 76 pour l'invention de Diffie-Hellman et 78 pour la mise en application pratique.
Alors, comment les mathématiques ont servi justement, vous venez de parler de ce concept-là, mais essayez de nous expliquer qu'on pourrait peut-être essayer de comprendre.
Vous pouvez tout à fait comprendre, mais pour plus de détails, il faudra venir au café scientifique. Mais,
oui, mais peut-être juste nous donner un petit aperçu.
Tout à fait. L'idée de base derrière la mise en pratique de cette cryptographie asymétrique, elle est due à Rivest, Shamir et Edelman, qui sont trois cryptologues célèbres. C'est d'utiliser donc des mathématiques assez anciennes, hein, des mathématiques du 17e, 18e siècle, qui sont dues à Fermat, à Euler, à Gauss, des gens comme ça. Et c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'arithmétique modulaire. Alors ça paraît un peu pompeux, un peu compliqué, mais en fait, c'est quelque chose de très simple. L'arithmétique modulaire, c'est l'arithmétique de votre monde, de votre cadran de montre.
Oui.
Lorsque ben là, je ne sais pas, en gros, il est 17h.
Oui.
Pourtant, votre montre, elle a un peu plus, mais bon, on va dire 17h pour arrondir.
Oui.
Votre montre, elle indique 5h.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait dans votre tête? Vous avez dit, bon, ben, 17h et 5h, c'est la même chose à un tour de cadran près. Et ben, l'arithmétique modulaire, c'est ça, c'est de compter en oubliant certains entiers, si vous voulez. C'est une sorte d'arithmétique simplifiée. L'arithmétique, c'est les lois d'addition, de multiplication,
oui,
que vous connaissez.
Oui.
Et bien là, vous les transformez, vous les simplifiez en oubliant certains entiers. C'est exactement comme quand les élèves à l'école primaire font une multiplication et vérifient qu'ils ne se sont pas trop trompés en faisant une règle de 9, ben ils font de l'arithmétique modulaire. Donc c'est ces concepts-là de mathématiques, d'arithmétique, c'est élémentaire mais
oui,
important,
oui, oui,
qui sont mis en œuvre dans la cryptographie moderne.
Et comment vous êtes-vous intéressé à ça, vous? Comment ça vous est venu, ça?
Ah ben, il se trouve que l'arithmétique ou la théorie des nombres, c'est mon domaine de recherche. En tant que mathématicien, donc c'est quelque chose d'assez... évidemment, je suis passé par l'arithmétique modulaire. Maintenant, la cryptographie aussi, si vous voulez, ce moment-là, c'est le moment où les mathématiques sont entrées dans la cryptographie et ont commencé à interagir avec la cryptographie. Et chacune de ces deux sciences se sont un peu enrichies l'une de l'autre, de leur histoire. Et bon, désormais, par exemple, la cryptographie moderne repose essentiellement sur ce qu'on appelle des courbes elliptiques. Et ça, il se trouve que c'est ce que je fais quotidiennement. C'est assez naturel pour moi de venir m'intéresser à ce genre de
choses. Vous avez commencé jeune à vous intéresser aux mathématiques?
Oui, je dirais que j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais au lycée, j'ai toujours aimé ça. Je pense toujours voulu faire des mathématiques. Je suis content d'en faire.
Est-ce qu'on a encore besoin de mathématiciens? Est-ce qu'on a de la relève? Est-ce que ça intéresse encore les jeunes?
La relève, alors je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire de la situation en France, la relève, il y en a quand même de moins en moins de gens qui sont intéressés par les maths. C'est aussi un peu un des objectifs de ce genre d'intervention que je vais faire, par exemple au Café Scientifique, mm-hmm. c'est de rendre ça peut-être un peu plus attrayant, un peu plus populaire.
Oui.
Oui, on en a besoin, que ce soit pour développer les théories, parce qu'on voit que les théories, même si c'est longtemps après, hein, elles peuvent toujours servir,
oui.
Même les plus pures, les moins orientées vers les applications a priori. Et puis on en a aussi besoin pour les applications concrètes. On voit bien que... communiquer secrètement, c'est toujours une course de vitesse entre les gens qui vont être capables de créer des nouveaux codes, des nouvelles façons de chiffrer des messages, des nouvelles façons de crypter, et puis ce qu'on appelle les cryptanalystes, les gens qui vont essayer de les casser. Donc mm-hmm. Turing en était un cryptanalyste célèbre.
Donc ça existe depuis longtemps, mais ça peut continuer à évoluer.
Ça peut continuer à évoluer, ça continue tout à fait. C'est même, je dirais, ça devient de plus en plus d'actualité. On entend beaucoup parler de questions de vie privée, de confidentialité,
oui,
etc. Et tout ça, oui. Ça repose, puisque toutes les communications passent par des canaux non sécurisés. Tout passe par les ondes, tout passe par les Internet, etc. Oui. Et on a besoin de plus de sécurité sur Internet.
Oui,
quand vous effectuez un transfert bancaire ou un paiement sur Internet, il y a des courbes elliptiques là derrière, il y a des mathématiques.
Donc
cachées.
Les mathématiques sont toujours à quelque part, de toute façon.
Oui, j'ai envie de penser que
dans notre vie, elles nous entourent.
Il y a beaucoup. Enfin, disons la cryptographie ou la cryptologie, c'était une science qui était restée technique jusque tard, jusque pendant la guerre. Et précisément, un des aspects du travail de Turing, ça a été de faire entrer les mathématiques dans cette science-là, comme les mathématiques mmh. sont entrées dans la physique, sont entrées dans la biologie, dans la chimie, dans beaucoup de sciences.
Oui. Fort intéressant, Nicolas Bellery. Donc, vous serez à l'auditorium de l'Alliance française à Vancouver. C'est à 17h30. C'est gratuit. Ce café scientifique.
Jeudi.
Et puis, c'est jeudi. J'ai pas dit jeudi?
Je ne sais pas.
Oh. On dit jeudi.
Jeudi. Voilà.
Alors, merci beaucoup d'être passé dans
merci
le studio,
de
nous avoir éclairé là-dessus. Je vous rappelle que Nicolas Bellery est professeur de l'Université de Clermont-Ferrand, chercheur au Centre français de recherche scientifique et chercheur invité au Pacific Institute for the Mathematical Sciences. Merci.
Merci
au revoir.
À vous. Au revoir.